BFM Business. Il est 22h. BFM Business. La librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, nos rubriques sur les statistiques et les études de la semaine. N'oubliez pas tous nos comptes sur les réseaux sociaux, librairie de l'écho. Surtout les réseaux sociaux, histoire de retrouver les références précises de tous les livres dont on parle dans l'émission. Et tout de suite, place aux auteurs. On se plonge aujourd'hui dans la librairie de l'écho sur les blocages, les peurs, les lâchetés qui bloquent la vie politique et économique en France et qui amènent la défiance vis-à-vis de la classe politique à des niveaux records. Alors comment en est-on arrivé là? Comment expliquer que les Français soient si durs avec leurs élus alors que ces élus font tout pour leur épargner les efforts pourtant indispensables au redressement de la France? Quelle piste de réconciliation? Réponse avec nos deux invités, Pascal Perrineau, bonjour.
Bonjour.
Pascal, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po, chercheur associé au CEVIPOF, et vous publiez avec Anne Muxel un inventaire des peurs françaises chez Odile Jacob. Et puis on va donner la parole à la nouvelle génération qui a envie de s'engager dans l'action public. Avec vous, Alexandre Mancino, vous êtes avocat, président du Cercle Orion, et vous publiez « Redonner sa grandeur à la politique » aux éditions Temporis. On va voir comment on peut essayer de, finalement, de recoller les morceaux entre les Français et leurs élus. Pascal Perrineau, je commence avec vous. Il y a que la France qui n'avait pas vraiment étudié jusqu'à maintenant. Quelles étaient les peurs qui nous traversaient individuellement et collectivement?
En effet, lorsque on s'est intéressé avec Anne Muxel à recenser les peurs des Français, on a constaté, à notre grande surprise, qu'il n'y avait pas d'enquête générale sur les peurs des Français, alors qu'il y a pas mal de choses sur les peurs des Anglais, les peurs des Italiens, les peurs des Américains. Il y avait comme ça des enquêtes sur telle ou telle peur, telle ou telle phobie, les peurs écologiques, il y avait des choses. Mais là, on a entamé, après avoir trouvé des financements, on a entamé une enquête sur un gros échantillon de Français, 3000 Français interviewés fin 2023 et fin 2024, une enquête sur toutes les peurs. Des peurs individuelles aux peurs collectives, des peurs intimes aux peurs publiques, des peurs sociales, économiques aux peurs politiques, afin de recenser toutes ces peurs, de les mesurer et de voir comment elles s'articulent entre elles.
Alors, la peur, évidemment, est aussi vieille que le genre humain. Et vous le dites très bien, d'ailleurs, dans votre introduction, chaque époque a eu ses grandes peurs. Est-ce que on peut brosser comme ça, à grands traits, une histoire de nos peurs?
Oui. La peur est aussi vieille que l'humanité. Bien sûr, et de temps en temps, il faut avoir peur afin d'essayer d'éviter tel ou tel danger. Cette peur, donc, a toujours habité la condition humaine, mais pendant des siècles, elle a reçu son sens, elle a été calmée, cette peur, par la religion. C'était la religion qui encadrait, qui donnait du sens aux peurs et qui expliquait à une humanité apeurée, souffrante, eh bien que dans un au-delà, on aurait accès à un monde meilleur. Ça a duré au fond jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, c'est le début du déclin du religieux, et on rentre dans une période où c'est la science qui va rassurer. Les figures de Pasteur, de Marie Curie, et on dit, voilà, rassurez-vous, la science et les techniques vont pouvoir répondre à vos angoisses, à vos inquiétudes, à vos peurs, et en particulier sur le terrain de la maladie. Et cette croyance dans la science à donner du sens aux inquiétudes et à les calmer, ça a duré jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'aux années 70. Mmh. Et là, il s'est opéré quelque chose, on s'en est pas aperçu tout de suite. C'est que peu à peu, la science et la technique qui étaient des choses positives, vont devenir des choses négatives. On commence à réfléchir aux dégâts du progrès, aux limites de la croissance. Et la science, qui était une réponse, devient une raison de s'inquiéter. Regardez où on en est aujourd'hui. Hein, la peur de l'intelligence artificielle, la peur du nucléaire, de multiples peurs se sont développées. Donc, plus de principes régulateurs. Alors, il y a eu l'État. Après la Seconde Guerre mondiale, l'État-providence, en effet, ouais. dit « Ne vous inquiétez pas, on prend en charge le risque vieillesse, le risque maladie, le risque chômage, etc. » Mais depuis, allez, 20 ans, l'État-providence est rentré en crise extrêmement profonde et cet État n'est plus considéré, on le voit bien dans les enquêtes et de ce que vous disiez, n'est plus considéré comme protecteur. Mais alors... Donc, il n'y a plus aucune protection contre la peur. Donc, la peur, pardon, la peur éclate, la peur se dissémine sans qu'aucune instance n'arrive à lui donner du sens. C'est redoutable.
Mais alors, ce qui est paradoxal, Pascal Perrineau, c'est que jamais la vie n'a été aussi protégée. Il n'y a pas un pays où, finalement, la trajectoire de vie des citoyens est plus sécurisée qu'en France. Notre éducation est prise en charge, notre santé est prise en charge. C'est l'un des pays où on a le moins de risque de se retrouver au chômage. Et pourtant... C'est un des pays où on a le plus peur. Et alors, j'adore la citation que vous faites de Marc, de l'anthropologue Marc Auger. Vous dites, en fait, jamais la vie n'a été aussi protégée. Jamais on a eu aussi peur pour notre vie. La peur de la vie a remplacé la peur de la mort.
Tout à fait. Hein, c'est la peur des lendemains. La peur de la vie. La peur de l'érosion, par exemple, des conditions de vie pour nos enfants. Hein. Moi, ça me frappe. Quand vous êtes dans des familles françaises, on sort de la période de Noël. Jusque dans mon groupe familial et dans mon groupe d'amis, on est autour d'une table. De quoi parle-t-on ? Chacun parle de ses peurs. Hein. Oh là là, la peur de l'intelligence artificielle, la peur du chômage, la peur de la fin du monde écologique dans les années qui viennent. Vous savez que dans notre enquête, on a ce chiffre, mais qui moi, personnellement, m'a scotché. 40% des Français, exactement 39% des Français, sont persuadés que dans les décennies à venir, ça sera la fin du monde. Excusez-moi du peu. Et chez les jeunes, c'est plus de 50%. Donc, comment voulez-vous rentrer de manière confiante dans l'avenir si vous êtes porteur d'un tel catastrophisme, d'une telle dystopie?
Oui, mais... Saint-Pascal Perrineau, et d'ailleurs c'est également, on y reviendra avec vous Alexandre Mancino, parce que c'est aussi un des points de départ de votre livre, c'est cette idée qu'on vit la fin d'un monde, quelque part, et qu'on est peut-être dans cette période gramscienne, ces fameux clairs-obscurs, vous voyez, entre le monde ancien qui n'est pas encore mort, le monde nouveau qui va émerger, et Gramsci disait, c'est pendant ces périodes qu'émergent les monstres. Peut-être pendant ces périodes qu'émergent les peurs les plus terribles.
Exactement. Parce que de la fin d'un monde à la fin du monde, vous voyez, il y en a qui franchissent le pas. Ouais. Et en effet, ces peurs, elles nourrissent quoi? Ben, elles nourrissent beaucoup de nostalgie. Et les gens se réfugient, comme ils n'arrivent pas à se réfugier dans l'avenir, qui reste extrêmement obscur, qui reste plein de menaces, ils se réfugient dans le passé. Il y a une nostalgie du retour en arrière.
Oui, mais ce qui est dangereux, Pascal Perrineau, c'est que c'est souvent la nostalgie d'un passé qui n'a pas vraiment existé.
Mais bien sûr, qui n'a pas existé. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Hein en effet, que
cette
la France...
Cette fameuse France qu'on regrette, voilà, etc.
Que la France était belle existé. Dans les années 50. Moi, je suis un enfant des années 50. Je vous assure que la vie, j'étais un enfant heureux, mais la vie était dure dans les années 50. Elle était très dure, il n'y avait pas les conditions sanitaires, les conditions alimentaires, on mourait à 70 ans, on était un vieil homme, hein. Donc il n'y avait pas du tout, en effet, les conditions favorables que nous connaissons aujourd'hui.
Notre société est fragilisée aussi par l'individualisation croissante. Et vous dites l'individualisation de nos sociétés, c'est un facteur propice à la diffusion des peurs.
Bien sûr. Parce que quand vous appartenez, l'individu est inséré dans des groupes d'appartenance, dans des communautés pérennes, durables, eh bien là aussi, il y a une réassurance. On peut, quand le groupe familial est fort, quand le groupe professionnel est fort, on peut trouver, quand le groupe religieux est fort, on peut trouver des mécanismes de lutte contre les peurs. En revanche, quand on est une société d'individus, ce que toutes nos sociétés sont devenues, ces individus sont extrêmement seuls. On mesure le sentiment de solitude dans la société française, c'est vertigineux, hein, et très fort en particulier chez les jeunes, hein, la solitude sociale. Et les hommes et les femmes sont à la recherche de groupes d'appartenance. Mais personne ne leur en fournit de groupes convaincants. Et la politique, qui pourrait être, au moins appartenait à la nation, appartenait à la communauté civique, à la communauté des citoyens, ça ne convainc plus. Parce que la politique ne rassure plus, Mais non seulement elle ne rassure plus, mais elle inquiète. Il y a un phénomène de presque de haine de la politique qui s'est développée, qui laisse les individus de plus en plus isolés avec eux-mêmes et avec ce qu'un sociologue de cette société individualiste, Alain Ehrenberg, appelle, si vous voulez, la fatigue d'être soi-même. Hein ? Cette société dépressive, cette société qui a peur, c'est aussi une société dans lequel les individus, renvoyés sans cesse à eux-mêmes, sont épuisés.
Que nous dit la carte de France des peurs ?
Alors, la carte de France des peurs, on n'a pas pu véritablement la tracer.
Parce vous arrivez à faire des typologies, quand
oui,
même.
Oui, on arrive à faire des typologies. Alors, on distingue quatre types de populations. Il y a à peu près 40% de Français. Ce qui est essentiel pour eux, c'est les peurs politiques. C'est ce dont je parle.
Ouais.
La politique ne rassure plus, elle fait peur. Et on a peur de quoi ? On a peur de la fin de la démocratie. On a peur du régime autoritaire. On a peur du coup d'État. On a peur du fascisme, etc. Ça, il y a des peurs extrêmement fortes. Et ça, ça touche plutôt des gens qui sont relativement aisés, qui ont un niveau de diplôme relativement élevé. Et ça touche plutôt des électeurs de gauche et des électeurs du centre. Et puis, il y a un deuxième groupe, c'est les conservateurs inquiets, apeurés. Alors là, c'est différent. C'est une population plus féminine, plus hétéroclite en termes de statut social, et qui est taraudée par des peurs à la fois individuelles, sociales et politiques. C'est un mixte de peurs. Ce sont des gens qui ont l'impression qu'un mode de vie est en train de se défaire. Mmh. Et qui sont très mal à l'aise devant, si vous voulez, cette érosion de leur mode de vie habituel. Ça, on les retrouve beaucoup dans l'électorat de la droite. Et puis, il y a un troisième groupe qui est extrêmement intéressant, qu'on appelle les insécures culturelles. Alors là, c'est très intéressant. Ils ont assez peu de peur politique, simplement, ils veulent pas le désordre, ils veulent pas l'anarchie, ils ont peur de l'émeute, ils ont peur de la révolution, etc. Mais leur peur, c'est des peurs identitaires. C'est des gens qui souffrent de la mondialisation et du statut qu'ils considèrent comme étant un statut devenu marginal de la France dans cette mondialisation. Ils souffrent sur le terrain culturel. C'est ce que jadis un professeur de sciences politiques maintenant disparu, Laurent Bouvet, appelait l'insécurité culturelle. Ce sont des gens dans lesquels l'insécurité, c'est pas tellement l'insécurité de la rue, vous voyez, c'est l'insécurité dans un mode de vie qui est en train de disparaître et qu'on est obligé de profondément recomposer pour s'adapter au monde tel qu'il est. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas peur du tout.
Ouais.
Mais ça, c'est une infime minorité. C'est 8% des Français.
Voilà, les optimistes forcenés. Cette peur, quelle place elle prend dans la construction du vote ?
Alors, c'est important. Pourquoi ? Parce que jadis, le vote, il était piloté par des choix idéologiques. On était socialiste, on était communiste, on était gaulliste, on était démocrate chrétien. Tout ça, aujourd'hui, s'est évanoui. On a vu les limites de toutes ces idéologies. Le vote s'est désidéologisé. Et le vote est devenu de plus en plus ce qu'un collègue américain, Marcus, appelle un vote du citoyen sentimental. Le vote passe de plus en plus par des affects, des sentiments. Et la peur, c'est un affect fondamental. Et donc la peur peut servir, en effet, à piloter son choix électoral. On le voit très bien avec ce, on en parle dans notre livre, ce qu'un Italien appelle les ventriloques de la peur. Il dit, il y a de plus en plus, dans la société, dans le terrain politique, mais sur d'autres terrains, des gens qui sont des entrepreneurs de peur. Ils font de la peur un ressort de leur campagne politique, hein, on va dénoncer les riches, les gros, les étrangers, les immigrés, etc. Donc on fonctionne avec la logique très ancienne, biblique, du bouc émissaire. Hein, et ces entrepreneurs de peur disent, rassurez-vous, quand nous serons au pouvoir, on pourra calmer vos peurs, parce que on viendra à bout de tous ces boucs émissaires. Écoutez d'un côté Marine Le Pen ou Jordan Bardella et écoutez de l'autre Jean-Luc Mélenchon. C'est sur ce terrain qu'il joue.
Mais derrière les peurs, il y a forcément des espoirs.
Bien sûr.
C'est le dernier chapitre
voilà.
De votre
livre. C'est le dernier chapitre. Alors, ce qui est très intéressant, la société française n'est pas la société de tous les désespoirs. Pas du tout. Les Français gardent des espoirs individuels forts. Ils ont l'impression tous qu'ils s'en tireront, qu'ils pourront bricoler individuellement pour s'en tirer. Heureusement qu'il y a ce ressort. On n'est pas dans une société de tous les abandons. Hein. Et on le voit, je vous en parlais tout à l'heure, quand on rencontre des chefs d'entreprise, ce que je fais beaucoup en ce moment dans les différents départements, on voit cette énergie. Mais ce qui manque, en revanche, c'est dès qu'on interroge les Français sur les espoirs collectifs, alors là, c'est Waterloo, morne pleine. Ils considèrent que collectivement, il n'y a aucune porte de sortie. Et le grand défi, je terminerai par là, pour 2027, c'est de trouver une force politique, un homme ou une femme, capable de transformer cette richesse incroyable des espoirs individuels en espoir collectif.
Alors, justement, Alexandre Mancino. Alors, déjà, repartons effectivement du point de départ de votre livre, hein, qui est un peu le même. C'est, vous dites, on est à la fin d'un cycle et on a devant nous des défis absolument considérables, comme on n'en a jamais dû en relever autant en même temps. Et qu'est-ce qui va nous permettre de reconstruire, finalement, une proposition d'avenir politique pour la France?
À travers ce livre, j'ai commencé par dresser un peu le diagnostic de ce qui va et de ce qui ne va pas. Et vous avez raison, moi je pense qu'on est dans un point de bascule absolument sans précédent. Ma génération n'a jamais connu en réalité ce qui est en train de se passer dans ce pays, où la politique, jadis porteuse d'espérance, ne fait plus rêver. On le voit encore cette semaine dans les différentes enquêtes notamment du CVPOF de Sciences Po. Le politique qui hier
portait... Il dit qu'il n'y a pas un pays dans lequel les élites sont aussi... Enfin, les élites politiques nationales sont aussi discréditées qu'en France.
Mais complètement. Et alors que la tradition très jacobine française a fait... Historiquement, l'État est au centre de la société. Le politique est censé justement tirer un pays vers le haut, être la locomotive, je dirais, de toute une société qui s'inscrit sur du long terme, qui a une vision, qui est inscrit qui a une vraie vision pour l'intérêt du pays, qui a une vraie vision de l'intérêt général et qui s'inscrit sur du temps long. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, et c'était tout le fil conducteur du livre, que nous vivons la fin d'un cycle. La fin d'un paradigme, comme il y en a en réalité peu eu dans l'histoire moderne. Je remonte à 89-90, chute du mur de Berlin, mai 68, et j'analyse notamment la notion du paradigme historique, la grande transformation de Polanyi au début du XXe siècle, qui nous disait que le tout marché du début du XXe aurait amené justement au tout État sur les deux guerres mondiales. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui on est à la fin de quelque chose. Alors je reste sur le volet national en analysant un peu les causes de ce que j'analyse comme étant être les causes de l'échec du politique depuis tant et tant d'années. On pourra y revenir, mais bien sûr que ceci s'inscrit dans un contexte plus large aussi international.
On va pas y revenir parce que c'est très bien documenté dans votre livre, et puis vous reprenez effectivement pas mal de thématiques connues sur finalement l'inefficacité de l'État, etc. Bon, quelques points. Alors d'abord, il y a un point qui, moi, me paraît un levier d'action important que Pascal Perrineau a déjà évoqué, c'est vous dites, on a commis deux erreurs phénoménales dans l'organisation de notre vie politique. C'est un peu le quinquennat et beaucoup le non-cumul des mandats. Et vous dites, cette rupture du lien entre le territoire et l'élu national, ça a été catastrophique. Il faut remettre ce lien.
Bah, disons que il y a ce que j'appelle dans mon livre une nouvelle éthique de l'engagement et un nouveau contrat social entre le peuple et ses élites politiques pour précisément remettre de la confiance et redonner à la politique ses lettres de noblesse. Parmi les causes de l'échec du politique que j'ai analysé dans la première partie, il y a ce que j'ai appelé le déracinement, pour faire écho à Simone Veil et à l'enracinement, à cette mystique aussi, Peggy, à la mystique politique, qui aujourd'hui n'est absolument plus. Donc effectivement, vous avez raison, je crois que cette centralisation à outrance mériterait d'être, je crois j'ai essayé d'esquisser un certain nombre de solutions, parmi lesquelles un énième acte de décentralisation beaucoup plus efficient, beaucoup plus proche des citoyens. Alors effectivement, il y a le quinquennat, l'alignement des élections présidentielles et législatives, on en voit le résultat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui On a une absence de vitalité, on a absolument plus de souffle, et on le voit aujourd'hui avec le quinquennat actuel. Et puis sur ce que vous disiez sur les territoires, en effet, cette suppression du non-cumul des mandats, alors s'inscrivait dans une logique qui pouvait être positive à l'époque, mais aujourd'hui on voit ce désalignement précisément et cette déconnexion que les Français d'ailleurs perçoivent vis-à-vis de leurs élites qui n'ont plus du tout de d'ancrage territorial dans les provinces.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de voir comment finalement on balise le chemin de la réconciliation entre les Français et leurs élites. Et vous avez une approche qui est une approche finalement de espèce de culture du résultat où on regagne petit à petit la confiance dans les élus à travers la possibilité de mesurer concrètement la réalisation des promesses qu'ils nous ont faites.
Oui, alors je crois que la première chose, c'est de parvenir à un diagnostic partagé. Pardonnez-moi d'y revenir, mais je pense que c'est absolument capital. Ce n'est pas être pessimiste que de nommer les vrais problèmes et que de nommer les causes qui ont amené justement à ce déclin français.
Mais vous savez ce que disait Margaret Thatcher. Elle disait, ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà. Elle disait, dites-moi comment faire.
Alors comment faire? Eh bien ça, c'est tout l'objet de la deuxième partie. Je crois que cette nouvelle éthique de l'engagement me semble absolument capitale. Et je crois qu'il faut repartir à travers un nouveau pacte social entre les élites et nos concitoyens. Alors comment faire concrètement? Vous avez raison, je crois que une conciliation entre la démocratie représentative qui est en crise, on le voit, alors ça n'est pas uniquement circonscrit à la France, mais néanmoins cette démocratie représentative est en crise. Je crois qu'il faut la réinventer par des leviers, la réinventer par de l'innovation démocratique, et je vais notamment sur le terrain de la participation citoyenne. Alors on a vu ce que ça a pu donner sous l'ère Macron, avec le grand débat national, avec un certain nombre de gadgets, en tout cas perçus comme tels sur ces dernières années. Alors certes, ça n'est certainement pas l'alpha et l'oméga pour réconcilier les Français avec la politique, mais je crois que ça peut quand même faire partie d'un certain nombre de pratiques pour faire en sorte de remettre le citoyen au cœur des processus décisionnels, les impliquer davantage à travers un certain nombre de processus participatifs et délibératifs à la décision. Et puis surtout, vous avez raison, mettre sur la table une vraie logique une vraie responsabilité de résultat, avec ce que j'appelle moi un esprit d'évaluation des politiques publiques qui doit être absolument beaucoup plus efficient qu'il ne l'est aujourd'hui. Cette logorée législative actuellement en réalité est une vraie problématique, puisque l'esprit des lois, qui est pourtant consubstantiel, je dirais, à l'art d'administrer la cité, la gouvernance publique, aujourd'hui on ne voit plus pourquoi on légifère sur tel ou tel problème. Un problème, une loi, sauf qu'aujourd'hui les Français ne savent absolument plus, si vous voulez, à quoi sert telle ou telle loi, telle ou telle politique publique.
Comment est-ce qu'on peut, et c'est là un peu tout le paradoxe, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir des résultats assez concrets qui vont permettre finalement de renouer la confiance entre les citoyens et les élus, mais comment retrouver en même temps le sens du temps long et le sens de l'intérêt général dans un monde de plus en plus individualisé? C'est-à-dire, comment on fait pour ce qui revient à dire aux gens, voilà, il y a un moment où il va falloir accepter de faire des efforts pour que collectivement, demain, tout le monde aille mieux. Ce qu'ont fait tous les pays qui nous entourent, quasiment, avec le bonheur qu'on connaît aujourd'hui, je pense à l'Espagne, je pense au Portugal.
Je crois qu'il faut faire table rase déjà et nous interroger collectivement sur ce qu'on attend de la politique et sur ce qu'on attend du politique. Ce nouveau contrat social, ce nouveau pacte social que je décris dans mon livre repose sur un certain nombre de choses. D'une part, une obligation de résultat quand même, avec un certain nombre de choses à mettre sur la table, d'étapes évidemment pour légiférer, pour mettre en place les politiques publiques, mais les Français doivent voir les résultats des politiques qu'on leur propose. Ouais. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est plus le cas. Non. Donc je crois qu'il faut absolument s'interroger sur ce qu'on attend du politique. La politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Je commence d'ailleurs par ça dans mon livre. Or aujourd'hui, encore une fois, ça n'est plus le cas. Donc interrogeons-nous sur les raisons de cette défiance et sur les raisons du dysfonctionnement auquel on est confronté, et essayons, à travers justement un certain nombre d'une gouvernance davantage participative, à travers plus de proximité dans les territoires, à travers de l'enracinement, à travers une logique de temps long qui doit de nouveau être mise sur la table.
La question que vous posez
pour reconstruire quelque chose.
En vous lisant, puisque vous faites référence à De Gaulle en disant c'est le dernier grand homme, etc. Et puis en regardant encore une fois l'enquête que le Cevipof a publiée cette semaine. Oui. Moi, les héros de la modernisation et du redressement de la France, finalement, on les connaît. C'est-à-dire que c'est un, les chefs d'entreprise, et deux, les élus locaux, qui ne sont pas du tout manger à la même sauce dans l'enquête du Cevipof que les élus nationaux. Et donc on se dit, bah finalement, notre homme providentiel, quelque part, il pourrait prendre ce double visage sur le terrain de l'élu local et du chef d'entreprise.
Mais bien sûr, sauf qu'aujourd'hui, quand on voit, et j'ai eu l'occasion de commenter le budget qui a été voté, ou le budget pour la sécurité sociale qui a été voté il y a quelque temps, on voit très bien que au lieu d'aller de s'inscrire sur dans le temps long et d'agir pour l'intérêt général, en réalité, on a l'impression de faire marche arrière, c'est-à-dire que toutes ces réformes, alors évidemment qu'on peut on peut dire que cette dissolution ratée a été le début des déboires du second quinquennat. En réalité, ce n'est pas vrai, parce que ce que vous dites là sur cet enracinement, sur l'attractivité du territoire, sur une fiscalité qui soit attractive vis-à-vis de nos entreprises et notamment nos PME, nos TPI, on voit aujourd'hui que malheureusement, à travers le budget qui vient d'être voté, on ne va pas du tout dans cette direction. Donc si vous voulez, on a un espèce de grand principe, c'est-à-dire qu'on sait très bien ce qui va et ce qui ne va pas. On sait très bien, et notamment par rapport à nos voisins européens, par rapport à l'Allemagne qui n'a pas désindustrialisé autant qu'en France, qui a vraiment un ciment de PME, de TPE extrêmement innovante dans les territoires. On voit qu'aujourd'hui en France, on prend le chemin inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc à partir de là, je crois que vous avez évoqué l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Je crois que taire la vérité, c'est déjà mentir. Donc je crois que parvenir au diagnostic partagé dans un premier temps, et puis se tourner vers l'avenir, précisément, eh bien, pour revivifier et pour redonner justement cette grandeur et cette utilité à la politique.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Donc Pascal Perrineau avec Anne Muxel, L'inventaire des peurs françaises, c'est chez Odile Jacob. Et puis Alexandre Mancino, Redonner sa grandeur à la politique. Et on l'a compris, ça partira du terrain. C'est aux éditions Temporis. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec notre coup de cœur et puis toutes nos études et nos statistiques de la semaine. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à AlternativeEconomique.fr et grand animateur de la rubrique livre aussi dans Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le président de la Société d'économie politique, dont il est aussi le critique littéraire attitré, bien sûr, Jean-Marc. Cette semaine, allez, on pourrait dire que ce duel des critiques est consacré au pape de la grande distribution, puisque vous avez choisi deux livres. Le livre de Margot Mullier sur Gérard Mullier, le fondateur de l'Empire Auchan, c'est chez Grasset. Et puis le livre de Jérôme Parzy, Casino, faites vos jeux, rien ne va plus. Et là, évidemment, c'est de Jean-Charles Naouri qu'il sera question. On commence peut-être à aller par la famille Mullier.
Oui, absolument, oui. Donc le livre est écrit par la petite fille du fondateur de Auchan,
ouais.
D'Auchan d'ailleurs, ça s'écrit sans H. Donc elle a demandé à son grand-père de la recevoir régulièrement. Donc, le livre est structuré autour de ces rencontres. Donc, chaque chapitre commence par un petit échange et par la description de la façon dont il reçoit sa petite fille. Donc, on est dans les années 2020 et il est né en 1931. Donc, il a déjà une certaine expérience et un certain âge. Et donc, elle va raconter à la fois sa vie, elle va raconter la vie de l'entreprise. Et puis, elle va le faire de façon... pas exclusivement chronologique, c'est-à-dire par grand thème. C'est, on commence avec la jeunesse de Gérard Méliès, et puis on va jusqu'à son départ plus ou moins forcé, parce qu'il n'est pas parti de gaieté de cœur. Et elle raconte à la fois sa personne, ses idées, son ambiance familiale, parce que c'est aussi la description d'un milieu familial, d'un milieu très marqué à la fois par le catholicisme et par l'attachement géographique à la région lilloise. Auchan, d'ailleurs, c'est un quartier de Roubaix, c'est le quartier des Auchan à Roubaix, où a été installé le premier magasin. Alors c'est un livre, vous savez, les libraires mettent quelquefois coup de cœur pour certains livres. Moi, si j'avais à le mettre en rayon dans une librairie, je mettrais coup de cœur, parce que c'est écrit de façon très agréable. La dimension humaine est incontestable, c'est-à-dire les rapports qu'elle entretient avec
son... Jean-Marc, on va pas se mentir, quand le livre est fait par la petite fille sur son grand-père, on se doute bien que c'est pas d'un esprit critique à titre. Qu'est-ce qui vous a plu?
Elle explique effectivement, elle souligne certaines faiblesses, certaines impasses dans lesquelles s'est embarquée l'entreprise. Elle souligne aussi le fonctionnement. Elle explique le fonctionnement de cette entreprise familiale. Ouais. Donc il y a l'AFM, l'association familiale Méliès. Et donc effectivement, la règle du jeu, c'est qu'à 65 ans, on quitte le pouvoir. Et lui, il a réussi à négocier jusqu'à 75 ans, mais à 75 ans, il a fallu partir. Et puis, il y a des anecdotes. Et alors, dans les anecdotes, il y en a quelques-unes qui sont assez marrantes. Il y a un repas avec un futur cadre de l'entreprise où on lui demande de venir à Lille. Il arrive de Paris. Donc, il imagine que le dîner va être très solennel. Il tombe sur une vie familiale assez... Le Gérard Méliès engueule son fils parce qu'il trouve qu'il a des chaussures qui coûtent trop cher. Et au moment où la femme de Gérard Méliès apporte le gigot, elle fait tomber le gigot. Donc, donc il faut éponger le jus et tout ça. Et à la fin des fins, arrive le véritable drame, c'est que le chien est en train de mourir, et donc le cadre qui raconte ça après à cet homme de chambre dit, je n'imaginais pas qu'en allant me faire embaucher pour un emploi de direction, je finirais ma nuit chez un vétérinaire. Et donc il y a tout un tas de petites anecdotes comme ça. Je retire quand même deux choses. La première, c'est qu'effectivement, justement, il a beaucoup... Il s'est beaucoup inspiré d'autres. Elle dit bien, il est allé aux États-Unis, il a vu comment ça fonctionnait. Il a regardé ses concurrents, il a vu comment ça fonctionnait. Et la deuxième chose, c'est effectivement cet attachement, mais alors viscéral, à un certain nombre de valeurs, des valeurs incarnées par le catholicisme, qui font que cet attachement, qui fait que c'est pas un patron totalement représentatif de ce que peut être le monde patronal.
Christian Chavagneux, avez-vous aimé ce livre ?
Oui, c'est un livre intéressant, mais très insuffisant. Vous avez déjà dit pourquoi, Emmanuel. Un livre intéressant parce qu'effectivement, on est rarement au contact vraiment personnel du grand capitaliste français. Parce que quand même, l'empire qu'il a créé, c'est quand même quelque chose.
C'est une famille assez opaque, quand même.
C'est une famille complètement opaque. Ouais. Mais là, du coup, dans les petites choses, on voit qu'il est issu lui-même d'une famille d'entrepreneurs où l'ambition de la réussite est quand même bien, bien ancrée. On voit que les parents ont dit, il faut réussir, et en plus, tu seras entrepreneur. Bon, c'est pas dans toutes les familles comme ça. On s'aperçoit qu'il rationalise ses esprits animaux en faisant de l'astrologie, de la numérologie. Ah, je vais vous embaucher, vous êtes né quand ? Tac, 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 là, donc votre chiffre c'est 5, ça va, je peux vous prendre. C'est quand même assez, assez bizarre. Un gars complètement formé sur le tas, on apprend que le premier Auchan a failli se planter, donc ça se trouve, Gérard Méliès aurait pu être rien du tout dans l'économie française. Mais on apprend, effectivement, l'association familiale Méliès qui regroupe donc tous les descendants des parents, des grands-parents de Gérard Méliès, c'est tous dans tout. Et ça, c'est important, tous en tous, c'est-à-dire que tous les descendants sont actionnaires à part égale de toutes les entreprises, parce que c'est Auchan, c'est Decathlon, c'est Kiabi, c'est toute la famille a contribué. Et c'est important parce que ça veut dire que, est-ce que c'est un groupe ou est-ce que c'est pas un groupe ? Parce qu'en ce moment, il y a un procès pour savoir si c'est un groupe ou pas. Si c'est un groupe, ça veut dire que vous avez des difficultés chez Auchan, vous voulez virer des gens, il faut les recaser chez Decathlon parce que ça marche bien chez Decathlon. Si c'est pas un groupe, vous n'avez pas d'obligation. Et donc, est-ce que c'est un groupe ou pas ? Bon, les syndicats ont dit, nous on pense que c'est un groupe, et là, on sort quand même un peu d'idée en disant c'est plutôt un groupe. Bon, alors ce sera à la justice de décider si c'est ça ou pas. Mais il y a rien, effectivement, c'est quand même pas très critique. Cette cascade L'association familiale Munier, c'est une cascade de holdings. On ne sait pas trop, il y en a qui passent par le Luxembourg. Pourquoi ? On sait juste à la fin que Gérard Munier pense que l'ISF, c'était une folie, donc il ne doit pas être très, très pro-impôt. Pourquoi est-ce qu'il passe par le Luxembourg ? C'est complètement opaque et ça reste complètement opaque à la fin. Et puis, on nous dit à un moment donné, ah, il a fallu s'endetter vraiment beaucoup pour acheter un des concurrents. Où est-ce qu'on en est de cette dette ? Est-ce qu'elle est repayée ? Est-ce qu'elle a augmenté ou pas ? Et puis, bien sûr, ce magasin et cette famille ne peut réussir que si tout le monde consomme de plus en plus et tout et n'importe quoi. Donc, c'est quand même pas très, très écolo. Et ça, bien évidemment, toutes ces critiques, on ne les trouvera pas dans le livre.
Alors, vous avez choisi, vous, Christian, le livre de Jérôme Parzi sur Casino. Ouais. Cette fois-ci, Casino, faites vos jeux. Rien ne va plus. Jean-Charles Naouri, très présent dans le livre, évidemment.
Bien évidemment. Donc, c'est très rare que je mette en avant des livres publiés à compte d'auteur. Oui. Mais celui-là, franchement, je pense qu'il valait la peine. Jérôme Parzi, c'est un financier qui a acheté des actions Casino. Il a tout perdu. Donc, il se dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un livre sans envolée lyrique. C'est une succession de faits. C'est un petit livre. Succession de faits. Il n'y a pas de commentaires. Hein. Juste les faits. On remonte à la fin du 19e, fameux Geoffroy Guichard qui a fondé Casino, qui a donné son nom au stade des Verts. Bon. On passe un petit peu de temps sur l'histoire. Et bien évidemment, ça commence à devenir intéressant quand Jean-Charles Naouri arrive avec ses investissements dans les années 2010 et PDG à partir de 2005. Là, ce qui est décrit, c'est la stratégie opérationnelle. On va s'élargir, devenir de plus en plus gros à l'étranger, notamment au Brésil. En France, on va racheter Monoprix, Franprix, Lidl, et puis après, on va faire du numérique, on va racheter ses discounts. Mais tout ça est organisé avec le fameux système que les financiers connaissent bien, les poulies bretonnes, c'est-à-dire là aussi une cascade de holding. Vous arrivez avec 100, vous empruntez 400, vous créez une holding dont vous êtes propriétaire, qui s'endette, qui est propriétaire, et à la fin, avec vos 100, vous arrivez à être propriétaire de Casino, qui est un truc complètement énorme et qui n'arrête pas de se développer. Et bien évidemment, la question, c'est est-ce que la grosse société que vous allez finir par acheter dégage assez de dividendes pour rembourser la cascade de lignes et rembourser les dettes. Et là, bien évidemment, non. Toute cette ingénierie financière va s'écrouler. En 2024, c'est Daniel Kretinsky qui reprend Casino. La fin du livre nous rappelle qu'il y a une histoire un petit peu tortueuse où Jean-Charles Naouri aurait peut-être pas utilisé quelqu'un pour manipuler les cours, pour donner des informations trompeuses. Et la fin du livre nous dit on aura le résultat de la justice début 2026. Et de fait, on a eu le résultat. Jean-Charles Naouri condamné à 4 ans de prison, mais il a fait appel. Donc, on va attendre l'appréciation juridique pour savoir comment on peut le qualifier. Mais l'appréciation économique du livre, elle est claire. C'est un modèle d'ingénierie financière qui a complètement échoué.
C'est étonnant parce que c'est deux livres en fait aux approches complètement antinomiques. Oui, c'est-à-dire d'un côté, là, côté un peu familial, sympa, mais pas très business financier. Et puis là, l'analyse clinique, Jean-Marc.
Oui, les personnages qui apparaissent, il n'y a jamais aucun portrait au-delà de deux ou trois mots. Ouais. Le seul, on peut penser qu'il y a c'est Geoffroy Guichard au début.
Naouri un peu quand même.
Naouri un peu d'ailleurs. La conclusion que je partage, c'est de dire qu'on se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère. Quand on a ce pédigré, c'est-à-dire un gars brillantissime en mathématiques, qui est reçu premier à l'école normale supérieure, qui fait un doctorat de mathématiques, qui est salué par tout le monde, et qui se retrouve effectivement à faire ses bricolages et ses montages financiers de poulies bretonne, qui finalement, il le dit bien, il finit par être surendetté, par ne plus avoir la maîtrise de ce qu'il fait. En plus, il s'associe systématiquement à des gens avec qui il finit par être en procès. Donc, on croise tout un tas de gens, mais ces gens, c'est juste un nom, on les voit apparaître. Donc, c'est vraiment des gens qui sont extrêmement réduits à leur dimension financière, à leur rapport avec Naouri. Donc, on apprend effectivement à la fois beaucoup de choses et pas beaucoup de choses, parce que finalement, on l'a su. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la façon dont il conduit son livre, c'est assez bien mené. À partir de donc c'est pas Casino à l'origine, c'est Rally qui est un groupe qui va initier le processus. Et comment il va être donc en bisbille avec les Galeries Lafayette autour de Monoprix, avec donc son aventure en Amérique du Sud qui est plus ou moins bien équilibrée. Et donc à la fin, on se dit, et c'est ce qu'il dit lui-même, quel gâchis. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il est allé faire là-dedans? Naouri, il avait autre chose à faire dans la vie et il le dit, écoutez, que d'essayer de s'embarquer dans des acrobaties financières qui n'étaient jamais que du surendettement et qui ne pouvaient être acceptables et acceptées que si le truc finissait par générer tellement de profits que ça devenait totalement improbable. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère ?
Le mot de la fin, Christian ?
Non, c'est effectivement très étonnant quand on voit le portrait, c'est Ça fait l'antinomie de Gérard Mulier qui formait sur le tas, qui va petit à petit grimpir les échelons. Et là, le gars complètement, là, Jean-Marc Lally, c'est élève brillantissime de nos plus belles écoles et qui finit avec 4 ans de prison.
Parce que Gérard Mulier n'a même pas eu le bac, il est collé le bac.
C'était effectivement très intéressant, ces deux profils totalement opposés qui connaissent quand même à un moment la réussite et puis effectivement après des temps plus difficiles. Allez, c'est l'heure de notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
L'étude de la semaine, c'est celle que va nous présenter Stéphane Seigneurin, fondateur et PDG de Charvy, une start-up spécialisée dans l'immobilier d'entreprise. Et alors, qui sort ce chiffre qui nous a passionnés, interpellés à la librairie de l'Écho, Stéphane, 11 051 euros hors taxes par an perdus pour chaque bureau inutilisé par les entreprises. Comment arrivez-vous à cette somme faramineuse, j'ai envie de dire?
Oui, effectivement, en fait, c'est une étude inédite là qu'on sort, parce que nous, on accompagne 100 000 collaborateurs d'entreprises en France et à l'international. Et en fait, on a étudié, on est dans un espèce de paradoxe qui est incroyable. En fait, c'est que les entreprises n'ont jamais disposé d'autant d'espace, parce qu'il y a eu le télétravail, et donc, etc. Et en fait, on a analysé le coût en fait de ces espaces vides. Et ça, on arrive à 11 050 euros hors taxes par an, en fait, qui correspondent à des mètres carrés, finalement, qui sont inoccupés, alors qu'en fait, on a des tensions, parce que les gens vont parfois tous au travail le même jour. Donc c'est des mètres carrés, c'est en fait le loyer, c'est les assurances, c'est des taxes bien sûr qui sont le foncier, puis l'exploitation de ces espaces, parce qu'en fait on est obligé de chauffer finalement tous les bâtiments, tous les open space, et les collaborateurs sont pas forcément présents au bureau, et tout ça en fait ça a un impact. En fait on a les services qui sont disponibles, mais les espaces sont inoccupés, et on arrive aujourd'hui à des taux d'occupation de seulement 35% en fait des bureaux en France, ce qui est très faible finalement, quoi. C'est en baisse par rapport à ce qu'on a pu constater dans le passé.
Alors,
en fait,
vous dites 35% de taux d'occupation. Oui, c'est quoi? C'est à peu près 10 points de baisse de taux d'occupation. Et pourtant, avec près de 60% des surfaces qui demeurent inexploitées.
C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, avant le Covid, on était aux alentours des 45%, donc c'était déjà pas extraordinaire, en fait, en vrai, hein. Donc c'est assez structurel. Et puis, finalement, en fait, bon, ça a baissé pendant le Covid à 30%. Là, c'est remonté un peu, on est à 35%, mais donc c'est pas encore extraordinaire. Et ça fait qu'on a, ouais, on a 60% aujourd'hui des espaces qui sont inoccupés, que l'entreprise, en fait, n'arrive pas à exploiter. Et malgré ça, en fait, il y a des frictions, parce qu'on a des collaborateurs auxquels, des fois, on demande de même revenir au bureau, et en fait ils vont pas trouver d'espace, pas avoir de place, parce qu'ils viennent tous le lundi et puis mettons le jeudi, et le vendredi à la veille du week-end, en fait ces espaces sont vides, quoi. Et en fait c'est un problème d'orchestration finalement de l'utilisation de tous ces espaces. Il y a un gros gâchis finalement avec des espaces, des mètres carrés inutilisés, chauffés pour rien finalement.
Mais ce qui est fou, Stéphane Seigneurien, c'est que à la sortie du Covid, beaucoup d'entreprises nourrissaient l'espoir finalement de cette baisse des mètres carrés dont allait avoir besoin une entreprise. Et en gros, beaucoup d'entreprises s'imaginaient que leur coût allait assez nettement diminuer. Hein, on se rappelle d'entreprises qui avaient dit même on va carrément supprimer notre siège social, et donc il y avait eu ce fol espoir que les coûts finalement des bureaux allaient considérablement baisser. Or on s'aperçoit que c'est pas vraiment le cas.
Non, c'est pas le cas. En fait, on a un décalage entre la volonté. Si moi demain mes bureaux, je dis voilà, je vais plus les utiliser. En fait, on est engagé en tant qu'entreprise sur un bail qui va être un bail 3-6-9. Donc on peut pas en fait augmenter ou réduire les mètres carrés. Donc on a des entreprises qui font revenir des collaborateurs en fait qui ont pas assez de place. Et puis ça dépend des jours. Et puis le travail, ce qu'on appelle le travail hybride, en fait, c'est le fait de travailler soit au bureau puis au domicile, ou au bureau, au domicile et dans un tiers-lieu, un espace de coworking par exemple. En fait, le travail hybride, c'est 55% des collaborateurs, mais on a quand même 73% des collaborateurs qui vont au bureau quand même une partie du temps. Donc ces bureaux, on en a quand même besoin, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas finalement à les libérer parce qu'on est engagé. Il y a un décalage comme ça, on n'a pas de flexibilité entre de bail et puis l'usage réel finalement qu'on fait des entreprises, quoi, enfin des locaux. Ouais.
Merci beaucoup Stéphane Seigneurien, fondateur et PDG de Charvy, qui nous livre donc cette étude aux résultats spectaculaires, hein, plus de 11 000 euros par an de perdus pour chaque bureau inutilisé dans les entreprises françaises. Merci beaucoup Stéphane Seigneurien.
Bonne journée.
Allez, c'est l'heure de retrouver nos études et nos chiffres de la semaine aussi.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Et on commence avec ce travail annuel de l'INSEE, mais où passe donc l'argent public? Voilà une question que se posent les Français. Eh bien, l'INSEE répond avec les données relatives à l'année 2024, avec des dépenses publiques qui augmentent de 4%, qui représentent 57% du PIB, avec la part des dépenses de santé qui continue de progresser. Et donc, comment se répartissent finalement ces dépenses publiques par grand poste? De très loin, c'est la protection sociale qui est le premier poste de dépense, 693 milliards d'euros devant la santé, 261 milliards d'euros. Songez que santé plus protection sociale, c'est presque 1000 milliards d'euros chaque année. Les aides à l'économie, 166 milliards d'euros. L'enseignement, 149 milliards. La défense, 54 milliards seulement. Donc même si c'est un budget en hausse, c'est un budget qui reste faible par rapport à l'ensemble des dépenses publiques.
L'alerte de la semaine.
Et c'est ce baromètre QBE sur la gestion des risques des entreprises, QBE étant un spécialiste de l'assurance corporate. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que les PME et les ETI françaises n'ont jamais été aussi nombreuses à se dire mieux armées face aux risques. Une entreprise sur deux estime aujourd'hui mieux les gérer qu'en 2024, dans un contexte pourtant marqué par l'instabilité politique, la pression réglementaire et la montée des risques cyber qui continuent de peser sur les décisions et la compétitivité. Les risques sont effectivement aussi plus nombreux, puisque presque 9 entreprises sur 10 font face à au moins 2 risques en parallèle. Le top 5 des risques évoqués par les entreprises, c'est la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix des matières premières, les évolutions législatives et réglementaires imprévues, les cyberattaques et la gestion des ressources humaines. Indiquons enfin qu'en 2025, plus d'une entreprise sur 3 indique que l'instabilité politique coûte en matière d'investissement, en incitant à davantage de prudence. Prudence qui se traduit aussi de manière très concrète sur les recrutements, puisque presque 20% des entreprises ont gelé ou ralenti leur recrutement dans ce climat incertain.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Et c'est celui de notre grand Manitou de la tech sur BFM Business, Frédéric Simotel, qui était déjà un journaliste économique confirmé au moment où est sorti ce livre.
Exactement.
Ce livre dont vous allez nous parler, Frédéric. J'ai fait danser un éléphant bleu même, oui. Hein, puisqu'il s'agit d'IBM, et son dresseur, ou plutôt son redresseur, c'est Lou Gerstner, le dirigeant historique d'IBM dans les années 90-2000, qui vient de disparaître.
Oui, c'était l'occasion de revenir sur ce livre, paru en 2003, ouais. Et Lou Gerstner donc est mort très récemment, là, au moment de Noël, à peu près à l'âge de 87 ans. Et il a dirigé IBM à l'époque où ce géant de l'informatique a vraiment failli disparaître. Hein. Il l'a dirigé entre 93 et 2002, et il a complètement redressé l'entreprise, et il en a donc fait un livre, J'ai fait danser un éléphant. Alors l'histoire, il arrive en 93, IBM est vraiment une vieille dame âgée de 1911, hein, donc de plus de 80 ans, qui a traversé deux guerres mondiales, une révolution industrielle galopante, qui se sent inébranlable, hein, persuadé de sa toute-puissance, même de son arrogance, hein, je vais en reparler. Et dans les entreprises, ils ont leurs grands ordinateurs, les grands mainframes qui pilotent tout. Et d'ailleurs, certains sont toujours en activité, il faut le savoir. IBM fabrique ses composants, ses PC, ses imprimantes, ses serveurs, conçoit ses logiciels d'entreprise. C'est la référence sur le marché de l'emploi. Hein. Tous les gens que vous croisez, ils ont tous bossé, ouais, à un moment ou à un autre
chez IBM. Mais voilà, on est au tout début des réseaux d'entreprise. C'est en pleine révolution la micro-informatique. On a Hewlett-Packard, Compaq qui sont en train de, ou le tout nouveau Dell hein, qui arrive. IBM a des coûts de production très importants, une productivité qui s'érode, des structures trop lourdes, du management qui tue l'entreprise à petit feu. Elle est devenue arrogante hein, par rapport à ses clients. Elle les écoute, mais elle les entend pas. 300 000 salariés, vous imaginez, qui ne jurent que par les grands systèmes. Ouais. Et puis tout ça dans des divisions qui vivent de façon autonome. Vous imaginez toute cette gabegie. Donc Big Blue souffre d'embonpoint.
Et là, à ce moment-là, finalement, tout le monde imaginait qu'un super patron de l'informatique allait arriver pour tout remettre à plat. Et pas du tout.
Et pas du tout. On pensait à John Sculley qui dirigeait Apple. Voilà. Il y a plein de noms qui circulaient. Tout d'un coup, on voit arriver Lou Gerstner. Lou Gerstner, alors il
le roi du biscuit.
Ouais, le roi du biscuit. Alors, il avait redressé American Express il y a quelques années. Et là, il arrivait de Nabisco. Voilà, le roi du biscuit, un des géants de l'agroalimentaire. Nabisco, c'était l'un des plus grands clients d'IBM. Donc, c'est surtout ça qui a joué. Il a compris un petit peu comment ça pouvait se passer. Et donc, c'est à partir de là où il raconte tout ce qu'il a fait. J'ai fait danser un éléphant. Donc, paru en 2003. Au cours des 100 premiers jours, il a dit à tout le monde, bon, c'est alerte générale. On se retrouche les manches. Du manager au l'ingénieur commercial. Il va falloir repartir au charbon, hein. C'est ce qui nous doit nous guider. C'est le marché, c'est la valeur rendue aux actionnaires, plan social de 80 000 personnes, les 13 divisions réintégrées avec évidemment un management centralisé, des procédures simplifiées, et puis surtout place à la vente de solutions tout intégrées, du PC au logiciel en passant par les services d'intégration.
Et ça marche.
C'est lui qui a le génie de créer IBM Global Services, voilà, qui devient un des grands acteurs du service. En 2 ans, les bénéfices sont de retour, plus de 6 milliards de dollars. Et entre 93 et 2002, l'époque où il a dirigé IBM, mais la valeur, la capitalisation est passée de 29 à 168 milliards de dollars. Ça fait sourire aujourd'hui quand on voit les géants, mais bon, c'était quand même une sacrée, c'était la coqueluche de Wall Street, hein. Il a réussi à faire danser cet éléphant. Et donc, après, il est parti chez Carlyle, gestion d'actifs, et il a laissé les mains à San Palmisano qui a poursuivi un peu, alors avec un peu moins de succès, il a vendu aux Chinois Lenovo.
Saluons quand même le talent de manager.
Le talent de manager.
Quand vous réussissez à la fois dans des secteurs aussi différents que la finance, l'agroalimentaire et l'informatique, ouais. C'est quand même que vous êtes un grand dirigeant.
Et son livre, je me suis renseigné, son livre est encore fait encore partie des best-sellers dans les grandes écoles de management pour dire comment on redresse tout ça avec des bonnes idées et puis surtout une vision parce que c'est ce qui manquait à IBM aussi. C'était là, il y a de l'arrogance, il y avait trop de procédures, tout ça trop lourde, mais c'est surtout une vision qui manquait.
Merci beaucoup, mon cher Frédéric. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ?
Une étude originale américaine qui porte sur la politique industrielle des États-Unis de 73 à 2022. On dit c'est le retour de la politique industrielle. Non, c'est pas du tout le retour. Il y a toujours eu de la politique industrielle aux États-Unis. Et le travail est original. Trois chercheurs ont regardé l'ensemble des lois publiées aux États-Unis, l'ensemble des décrets présidentiels publiés de 73 à 2022 avec l'IA. Ils ont fait des petits sondages pour voir si l'IA se plantait pas ou pas. 95% de réussite, donc ils ont dit que c'était pas mal. Et on voit qu'il y a toujours de la politique industrielle américaine, qu'il y a eu un pic fin des années 70 et un deuxième pic avec Trump 1, Joe Biden. Donc ça s'arrête en 2022, on n'a pas Trump 2, mais que les décrets présidentiels passent essentiellement par des mesures protectionnistes. Donc Trump s'inscrit complètement dans la logique historique, avec plus de quantitatif et sur la forme un petit peu différent, mais ça s'inscrit complètement dans la logique historique de la politique industrielle américaine.
Passionnant. Jean-Marc Daniel.
Alors moi j'ai choisi le livre de Martial Yu, qui est un journaliste qui est bien connu dans la maison. Exactement, qui a commencé, je sais pas s'il a commencé, mais qui a été à un moment donné ici à BFM. Et donc ça s'appelle Les Dindons chez Robert Laffont. Et Les Dindons, c'est Nicolas Kippé, pour reprendre une expression qui est devenue à la mode. Donc il regarde effectivement comment les classes moyennes sont progressivement de plus en plus mobilisées sur le plan économique, comment elles sont LP. Alors pour qui LP? Donc évidemment pour les retraites, LP aussi pour le fait que l'enseignement coûte de plus en plus cher, et LP pour des services publics qui sont de moins en moins performants. Et donc, il dit, voilà, Nicolas Kippé, voilà ce qu'il paie vraiment, et voilà pourquoi il commence à l'avoir un peu ras-le-bol, Nicolas.
Très bien. Eh bien, écoutez, alors, bon, moi, c'est presque un prétexte, j'ai envie de vous dire, que ces élections municipales qui arrivent, mais il se trouve que on a reçu deux bons livres sur Paris. Alors, un qui pourrait effectivement être intéressant dans le cadre de la campagne des municipales qui va être sanglante dans la capitale, à n'en pas douter. C'est le livre de Jean-Claude Pragère, L'avenir de Paris, l'impératif économique. C'est aux éditions du Lys Bleu. Jean-Claude Pragère, il est économiste. Il a dirigé les études économiques à la Société du Grand Paris. Donc, il connaît plutôt bien la région capitale. Voilà le défi économique qui se présente devant Paris. C'est absolument passionnant. Et puis alors, bon, là, c'est plus Paris prétexte, en fait, hein, à une étude sociologique. Ça s'appelle Le capital d'une capitale, 200 ans de richesse et d'inégalité à Paris. Gilles Postel-Vinet, Jean-Laurent Rosenthal, c'est aux éditions du Seuil, la collection Éco-Histoire. Alors, en fait, il retrace finalement l'évolution de la richesse et des inégalités, mais à partir de Paris, puisque à Paris, on dispose de données statistiques absolument remarquables qui permettent... Alors, ça se passe à Paris, mais on pourrait l'extrapoler. Christian, c'est un livre quand même un peu exigeant. Hein.
Ouais, c'est un livre un peu exigeant à lire, mais qui est pas... c'est du Piketty, mais centré sur Paris.
Exactement. Voilà, ces deux livres, si vous voulez chauffer l'ambiance avant les élections municipales. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.